Ce chapitre de conclusion a pour but de consolider l'ensemble des notions abordées tout au long de la section « Fondamentaux des réseaux, protocoles et modèles OSI ». Il ne s'agit pas d'une simple liste de rappels, mais d'une synthèse structurée et commentée qui te permettra de vérifier que tu maîtrises réellement chaque concept, de comprendre comment ces notions s'articulent entre elles, et de mesurer ta capacité à les mobiliser dans un contexte professionnel de cybersécurité et de DevSecOps. Au fil de ce parcours, tu as progressé depuis la structure en couche du modèle OSI jusqu'à l'analyse concrète du trafic réseau avec Wireshark. Tu as manipulé des protocoles réels, compris comment les données circulent sur un réseau et appris à identifier les points de vulnérabilité. Ce cours de conclusion récapitule les blocs de connaissances essentiels et te fournit une checklist de maîtrise opérationnelle. Moins. Bloc 1, le modèle OSI et ses 7 couches. Le modèle OSI, Open Systems Interconnection, est un cadre de référence qui décompose la communication réseau en 7 couches distinctes. Chaque couche a un rôle précis et communique avec les couches adjacentes. Couche 1, physique, transmission des bits bruts sur un support physique, câble, onde radio. Couche 2, liaison de données, gestion des trames, adressage physique via les adresses MAC. Détection d'erreurs. Couche 3, réseau, routage des paquets, adressage logique via les adresses IP. Couche 4, transport, segmentation des données, contrôle du flux, fiabilité, TCP ou rapidité, UDP. Couche 5, session, établissement, gestion et clôture des sessions de communication. Couche 6, présentation, encodage, chiffrement, compression des données. Couche 7, application, protocole directement utilisé par les applications H, T, TP, DNS, FTP, SMTP. En cybersécurité, comprendre cette décomposition est fondamental. Une attaque de type injection S-Q-L cible la couche application. Une attaque de type empoisonnement ARP cible la couche liaison. Une attaque de déni de service distribué peut saturer la couche transport ou réseau. Identifier la couche concernée permet de choisir la bonne contre-mesure. Moins, bloc 2. Les protocoles de la couche transport, TCP et UDP. Le protocole TCP, transmission contrôle protocole, garantit la livraison ordonnée et fiable des données. Il utilise un mécanisme de poignée de main en 3 étapes. SYN, SYN-ACK, ACK, avant tout échange. C'est le protocole utilisé par HTTP, HTTPS, FTP et bien d'autres. Le protocole UDP, User Datagram Protocol, est non connecté et ne garantit ni l'ordre ni la livraison. Il est utilisé pour les communications rapides où quelques pertes sont tolérées. DNS, streaming vidéo, jeux en ligne. Du point de vue de la sécurité, TCP expose des vecteurs d'attaque comme le détournement de session TCP ou le scan de port via des paquets SYN, technique utilisée par NAP. UDP est souvent exploité pour des attaques par amplification, DNS amplification, NTP amplification. Les ports sont des identifiants numériques, de 0 à 65535, qui permettent de distinguer les services sur une même machine. Les ports bien connus vont de 0 à 1023, le port 80 pour HTTP, le port 443 pour HTTPS, le port 53 pour DNS, le port 22 pour SSH, le port 25 pour SMTP. Lors d'un test d'intrusion, scanner les ports ouverts d'une cible est l'une des premières étapes de la reconnaissance. Moins. Bloc 3. Le protocole NAT, translation d'adresse réseau. Le NAT, Network Address Translation, permet à plusieurs machines d'un réseau local de partager une seule adresse IP publique. Le routeur traduit les adresses privées. Exemple, 192.168.1.x en adresse publique lorsque les paquets quittent le réseau local et effectue l'opération inverse pour les réponses entrantes. Le NAT masque la topologie interne du réseau, ce qui constitue une légère protection par obscurité. Cependant, il ne remplace pas un pare-feu. En analyse de trafic, le NAT peut compliquer la corrélation des journaux réseau, car plusieurs hôtes internes apparaissent sous la même adresse IP publique. C'est un point important lors d'investigations forensiques. Moins. Bloc 4. Le protocole DNS, résolution de nom. Le DNS, Domain Name System, traduit des noms de domaines lisibles. Exemple, www.exemple.com, en adresse IP. La résolution DNS suit une chaîne hiérarchique. Résolveur local, serveur, racine serveur de nom de domaine, de premier niveau, serveur autoritaire. Le fichier host, situé dans / etc. host sur Linux ou C2.:// Windows/// System32/// Drivers/// etc./// host sur Windows. Permet de définir localement des correspondances non IP sans interroger un serveur DNS. Cette fonctionnalité est utilisée en test d'intrusion pour rediriger du trafic, simuler des environnements ou contourner la résolution DNS officielle. Les attaques ciblant DNS sont nombreuses et critiques. L'empoisonnement du cache DNS, DNS Cache Poisoning, injecter de fausses entrées dans le cache d'un résolveur pour rediriger les utilisateurs vers des serveurs malveillants. Le DNS Hijacking, modifier la configuration DNS d'un hôte ou d'un routeur pour intercepter les requêtes. L'exfiltration de données via DNS. Utiliser les requêtes DNS pour faire transiter des données sensibles hors d'un réseau. Technique de tunneling DNS. NIFE des requêtes DNS avec Wireshark permet de visualiser en clair quels domaines sont interrogés, ce qui peut révéler des comportements suspects sur un réseau. Moins. Bloc 5. Les couches 4 à 7 et le protocole HTTP. Le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, fonctionne à la couche application. Une requête HTTP est composée d'une méthode get, post, put, delete, option, etc., d'une URL cible, d'entête, header et éventuellement d'un corps, body. Les méthodes les plus courantes. Get, récupérer une ressource sans modifier l'état du serveur. Post, envoyer des données au serveur. Formulaire, connexion. Put, créer ou remplacer une ressource. Delete, supprimer une ressource, option. Interroger le serveur sur les méthodes autorisées, utilisées notamment dans les échanges entre origines différentes, ce qu'on appelle cross-origin resource sharing. Une réponse HTTP contient un code de statut. 200, succès, 300, 1, 302e, réalisation, 400, requête incorrecte, 401, non authentifié, 403, accès interdit, 404, ressources introuvables, 500, erreur interne du serveur. Ces codes sont des indicateurs précieux lors d'un test d'intrusion. Un code 403 peut suggérer une ressource protégée mais existante. Un 500 peut révéler une faille d'injection. Les entêtes HTTP jouent un rôle central en sécurité. L'entête host identifie le domaine cible. L'entête authorization transporte les jetons d'authentification. Les entêtes de sécurité comme Content Security Policy. XFrame Option, Strict Transport Security, protège contre des attaques comme le clickjacking ou les attaques de type Man in the Middle. HTTPS est HTTP encapsulé dans une couche de chiffrement TLS, Transport Layer Security. Il garantit la confidentialité et l'intégrité des échanges. En test d'intrusion, l'interception du trafic HTTPS nécessite un proxy intermédiaire, comme Hursuite, qui joue le rôle d'un homme au milieu contrôlé. Moins. Bloc 6, analyse de trafic avec Wireshark. Wireshark est un analyseur de trafic réseau, NIFP, en mode graphique. Il capture les paquets circulant sur une interface réseau et les affiche de manière structurée par couche. Savoir utiliser Wireshark est une compétence fondamentale en cybersécurité. Filtrer le trafic par protocole HTTP, DNS, TCP, point port égal 443, pour isoler les échanges pertinents. Reconstituer des flux TCP, complets, option follow, TCP stream, pour lire les échanges applicatifs en clair. Identifier des anomalies, scan de port, nombreuses tentatives SIN, sans ACK, requête DNS suspecte vers des domaines inconnus. Transmission de données non chiffrées contenant des identifiants. Lors d'un test d'intrusion ou d'une investigation forensique, Wireshark permet de prouver qu'une attaque a eu lieu, d'en reconstituer la chronologie et d'identifier les données compromises. Moins, bloc 7, vue d'ensemble d'une requête HTTP du début à la fin. Il est essentiel de pouvoir décrire le chemin complet d'une requête HTTP depuis le navigateur jusqu'au serveur et retour. Ce flux intègre toutes les couches OSI. 1. L'utilisateur saisit une URL dans son navigateur, couche application. 2. Le navigateur effectue une résolution DNS pour obtenir l'adresse IP du serveur. 3. Une connexion TCP est établie via la poignée de main à 3 étapes, couche transport. 4. Si HTTPS, une négociation TLS a lieu, couche présentation. 5. La requête HTTP est envoyée, couche application. 6. Les paquets traversent les couches réseau, routage IP, liaison, trame Etherlayer, adresse MAC et physique, transmission des bits. 7. Le serveur reçoit la requête, la traite et renvoie une réponse HTTP en suivant le chemin inverse. 8. La connexion TCP est fermée proprement. Fin, A, K, A ou maintenue ouverte selon les entêtes de connexion. Comprendre ce flux permet d'identifier à quel point une attaque peut s'introduire. Usurpation DNS. Moins. Checklist de maîtrise. Ce que tu dois savoir faire. Voici la checklist opérationnelle qui résume les compétences attendues à l'issue de ce chapitre. Coche chaque point uniquement si tu es capable de l'expliquer à quelqu'un et de le mettre en pratique. Je peux nommer et décrire les 7 couches du modèle OSI et donner un exemple de protocole ou d'attaque pour chacune. Je comprends la différence entre TCP et UDP et je sais dans quel contexte chaque protocole est utilisé. Je connais les ports standards des principaux services, http, https, DNS. SSHFTP, SMTP. Je sais ce qu'est le NAT et comment il affecte la visibilité des adresses IP dans un réseau. Je comprends le fonctionnement de la résolution DNS et je sais comment manipuler le fichier host. Je connais les principales attaques ciblant DNS, empoisonnement de cache, détournement, tunneling. Je maîtrise la structure d'une requête et d'une réponse HTTP, méthode, code de statut, en tête. Je sais ce que HTTPS apporte en termes de sécurité par rapport à HTTP. Je suis capable d'analyser un fichier de capture réseau dans Wireshark pour y identifier des échanges DNS, TCP et HTTP. Je peux décrire le chemin complet d'une requête HTTP depuis la saisie d'une URL jusqu'à la réception de la réponse en mentionnant chaque couche impliquée. Je comprends en quoi la maîtrise des protocoles réseau est nécessaire pour réaliser un test d'intrusion, identifier des vulnérabilités et produire un rapport pertinent. Moins, pourquoi ces fondamentaux sont indispensables en cybersécurité. Sans une compréhension solide des protocoles réseau, il est impossible d'identifier correctement les vulnérabilités applicatives. Par exemple, une mauvaise configuration du partage de ressources entre origines différentes, cross-origin resource sharing, ne peut être comprise et exploitée qu'en sachant comment fonctionne HTTP. Une attaque de type server-side request forgery, falsification de requêtes côté serveur, nécessite de comprendre comment un serveur effectue des requêtes réseau internes. La sécurisation d'une chaîne d'intégration et de livraison continue, CICD, implique de savoir quels ports et protocoles sont exposés, quels services DNS sont utilisés, et comment les communications entre conteneurs sont acheminées. Ces fondamentaux sont donc le socle sur lequel repose l'ensemble du cursus. Les tests d'intrusion, la correction des failles, l'analyse statique et dynamique du code, la mise en place de tests automatisés de sécurité. Tout cela s'appuie sur la capacité à lire et comprendre ce qui circule sur un réseau. Prends le temps de revoir les points de la checklist sur lesquels tu as un doute. Utilise Wireshark pour rejouer des captures. Relis tes notes sur DNS et HTTP. Et assure-toi de pouvoir dessiner de mémoire le chemin complet d'un paquet sur un réseau. C'est cette maîtrise pratique et théorique combinée qui te permettra de progresser efficacement vers les chapitres suivants du cursus.